intérêt.
Merci. Alors d'abord, deux remarques générales, hein. Une de fond et une de forme. Celle du fond, c'est que cette réorganisation est motivée, on nous l'a dit dès le départ, par la volonté de Christian Poiret de mettre en adéquation les délégations confiées aux différents vice-présidents et l'organisation de l'administration. C'est vrai que c'est une décision éminemment politique. Il aurait pu être intéressant qu'aujourd'hui, on ait comme interlocuteur Madame Bécu et Madame Tonnerre, par exemple. Parce que M. Poiret est beaucoup occupé. Une deuxième remarque de forme, elle est plutôt positive et on espère que ça fera jurisprudence, c'est que c'est un texte, le texte qui nous est présenté est un texte abordable, qui n'est pas rédigé dans un langage technocratique comme on a déjà pu vous en faire à différentes reprises. Il est accessible, il ne paraît pas hors sol. Quand on veut, on peut. Donc on espère que les autres rapports CT prendront la même forme. Donc on a beaucoup de choses à dire sur cette réorganisation et on a beaucoup de choses à dire, des choses différentes en fonction des directions concernées. On va d'abord commencer par la direction du retour à l'emploi, qui est la direction qui suscite pour nous le plus de problèmes politiques, philosophiques et contre laquelle nous nous opposons frontalement. Donc on aura un discours essentiellement politique autour de cette direction du retour à l'emploi qui pour nous n'a rien à faire dans cette réorganisation. C'est donc la direction de notre point de vue qui justifie toute la réorganisation, c'est la direction prioritaire pour l'exécutif. Christian Poiret l'a reprécisé lundi encore en séance plénière, le retour à l'emploi est la priorité du mandat. Fermez les guillemets. Donc pas la prévention, pas la santé, pas la protection, pas l'accès aux droits, non, le retour à l'emploi. Mission qui ne relève pas du tout du département et qui, à ce titre, est un véritable, de notre point de vue, un véritable détournement en termes de mission et en termes de budget. Et pourquoi le retour à l'emploi? Parce que le travail rendrait digne. Et pourquoi pas libre? Le travail permettrait aussi, selon Madame Bécu, de payer ses factures, son loyer et même d'avoir des loisirs. C'est ce qu'elle a dit lundi en séance plénière. Ah bon? Il faudra que vous nous montriez, que vous nous démontriez vers quel emploi les bénéficiaires du RSA sont orientés et surtout pour quelle rémunération. Vous savez quand même qu'avec un SMIC, on ne peut pas vivre correctement et qu'il faut choisir entre se nourrir, payer ses factures, son loyer et qu'il n'est bien sûr pas question de loisirs. Vous le savez, on l'imagine, hein. Donc sinon, qui seraient tous ces travailleurs pauvres? Selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, il y a des gens qui acceptent d'utiliser le terme exclusion sociale, qui a publié un rapport en début 2022 pour un couple avec deux enfants et pour vivre décemment, c'est pas vivre dans le luxe, hein, pour vivre décemment, dans un logement social et dans une ville moyenne, il faut des revenus de 3 284 euros nets par mois. Pour les familles monoparentales avec deux enfants, dans un logement social, c'est 2 599 euros. 24% des couples avec enfants doivent s'imposer des restrictions. Alors non, le travail ne permet pas de vivre décemment. Ça dépend du travail et surtout de sa rémunération. Quant à la dignité, en fait, c'est un droit, la dignité. C'est un droit qui doit être respecté par les autres vis-à-vis de soi. C'est par exemple l'inviolabilité de l'intégrité. Le principe de dignité pose la question des valeurs des êtres humains. Dignement pour un être humain signifie humainement. Par extension, perdre sa dignité signifie être rabaissé, se retrouver dans une situation humiliante, dégradante. Donc est-on indigne quand on est sans emploi? Et suffit-il d'avoir un emploi pour se comporter dignement? Est-ce que laisser des enfants en danger sans protection, ce n'est pas faire preuve d'indignité? Puisque décréter qu'avoir un travail permet de vivre correctement est faux, puisque avoir de la dignité ne dépend pas du travail qu'on a ou pas, qu'est-ce qui motive cette passion, même cette obsession pour cette politique de retour contraint à l'emploi, quoi qu'il en coûte, si ce n'est l'idéologie? Une idéologie concernant cette prétendue valeur travail. Alors, Monsieur de Tavernier, on avait déjà essayé, en 2019, quand vous aviez réorganisé la DIP, on avait déjà essayé d'amener tout le monde ici autour de la table à se poser des questions autour de ces questions de travail. Et on avait demandé est-ce qu'on pouvait chacun s'interroger sur qui travaille et qui ne travaille pas. Peine perdue. Les questions se reposent de notre point de vue quand vous créez cette direction du retour à l'emploi. Et qui sont ces allocataires du RSA qu'il faut renvoyer au boulot? Pour un bon tiers, ce sont des femmes seules avec enfants. Et oui, dans les milieux modestes, les séparations, l'isolement, ça appauvrit. Pour une bonne moitié, ce sont des personnes seules dont beaucoup ont épuisé leur droit à l'indemnisation chômage ou n'ont pas cotisé assez pour y prétendre. D'ailleurs, ce serait intéressant de vous poser la question, est-ce que vous intervenez auprès de l'État pour qu'il cesse de réduire les droits des chômeurs, en réduisant leur indemnité, régulièrement leur durée d'indemnisation ou en augmentant la durée de cotisation nécessaire pour prétendre à une indemnisation? Effectivement, toutes ces fins de droits viennent alimenter le nombre de RSA que vous déplorez régulièrement. Ce serait intéressant de voir au niveau de l'État si vous leur faites part de ce vaste communicant. Et nous l'avions dit déjà en 2019, dans ces chômeurs, 14 000 au niveau national, meurent prématurément chaque année. On l'avait déjà dit aussi en 2019, mais on le répète, l'INSERM invite toutes les professions du soin à les considérer, ces personnes, comme des personnes à risque en termes de santé. C'est sur cette question que le département doit agir et en faire une priorité. Les services du département doivent tenter de prévenir et surtout d'amortir les conséquences de l'exclusion. Et ce qu'on aurait à vous dire, on va faire un petit quart d'heure anthropologique. Excusez-nous, on va essayer d'élever un peu le débat. Quand vous avez décidé de vous présenter au suffrage de vos concitoyens pour être élu départemental, vous n'avez pas décidé, de notre point de vue, de postuler pour être PDG d'une entreprise lucrative. Vous avez pris la tête d'un service public de surcroît où l'action sociale est centrale, 60% du budget. Ce qu'on doit faire de manière triviale dans un service social et dans toute l'action sociale qui devrait nous occuper, c'est nous occuper des gens, de tous les gens. On doit les aider à améliorer leurs conditions de vie dans tous les domaines. C'est ça le boulot des services sociaux départementaux. Ce qui pose une question quasi civilisationnelle. Rien de moins. Le voilà, le petit quart d'heure anthropologique. Et oui, parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de réactionnaires, le début de la civilisation ne date pas du moment où l'humanité s'est découvert une culture ou une religion commune. Mais, comme le précise Margaret Mead, qui est une célèbre anthropologue, la première trace de civilisation, c'est la découverte d'un fémur humain guéri. Ça veut dire que quelqu'un a décidé d'aider une autre personne, de la soulager. Parce que chez les animaux, un fémur brisé, c'est la mort assurée. Donc, aider quelqu'un à traverser les difficultés, c'est le début de la civilisation. Et c'est ce à quoi devraient s'occuper nos services sociaux. Et ne pas les contraindre à retourner au boulot sous prétexte qu'ils gagneraient en dignité. Sur cette direction du retour à l'emploi, on a fait le tour et vous avez bien compris que ça justifiera vraisemblablement notre positionnement global sur cette réorganisation. Concernant la direction de l'action sociale, qui fait néanmoins partie de la DGA retour à l'emploi et action sociale, elle ne fait pas partie de la direction qui sera gérée par Madame Devrez. Elle fait partie de la DGA retour à l'emploi et action sociale. La notion d'action sociale d'ailleurs étant intervenue dernièrement. Et on le salue. Donc dans cette direction se trouvent les services sociaux de proximité. Pour nous, l'enjeu était de taille et on vous l'a dit dès le départ, il s'agissait pour nous de sauver la polyvalence de secteur et de tous ces principes d'intervention, de réintroduire les fondamentaux du travail social et de garantir le rôle essentiel de prévention que réalisent nos collègues dans l'actuel SSD. Parce qu'il serait quand même très dommageable d'imaginer que le soutien à la parentalité, la prévention autour des maltraitances intrafamiliales ne se passe qu'au niveau de la DGA enfance, famille, santé. Il y a tout un travail qui est effectué par les travailleurs sociaux de proximité qui est essentiel pour l'ensemble de la chaîne de protection de l'enfance. Donc, sauver la polyvalence de secteur, ça a donc été notre cheval de bataille depuis le début de l'année 2022. Et nous avons essayé d'appuyer de tout notre poids pour que la parole des collègues soit entendue, parce que on était totalement en phase avec ce qu'elle et ils faisaient remonter autour de cette crainte de mettre à mal la polyvalence de secteur et de se retrouver avec des travailleurs sociaux totalement déterritorialisés devant gérer un portefeuille d'usagers en fonction des orientations qui auraient pu être décidées par les chefs de service, par exemple, comme ça a été l'organisation des UTPS qui était organisée en pôle. Se sont donc mobilisés et ont questionné et avaient de grandes craintes concernant les grands principes de la réorganisation. Force est de constater que les propositions argumentées et les notions incontournables n'apparaissaient pas dans le texte initial. Elles ont été, à notre demande, réintroduites, et c'est une bonne chose. Dans cette direction, il était important de repréciser que les personnes qui agissent dans le SSP sont des travailleurs sociaux, et des travailleurs sociaux à part entière. Dans le texte initial, dans la mesure où, par exemple, tout ce qui était service d'appui, organisation d'appui, aide à la réflexion, même soutien technique sur le plan scientifique, était dévolu à la direction Enfance, Famille, Santé. Il était important pour nous de repréciser que ce sont des travailleurs sociaux et que ce qui chapeaute leur intervention, ce sont les valeurs et les fondamentaux du travail social, et les valeurs et la qualité des interventions de la polyvalence de secteur. Donc, à ce stade, et compte tenu des amendements qui ont été pris en compte, que nous avons travaillé rapidement et qui ont été pris en compte, on estime qu'on a limité la casse. Et on estime avoir donné des outils aux travailleurs sociaux du futur SSP pour faire valoir leur éthique et le droit des populations, à partir, bien sûr, du moment où ils considéreront qu'ils doivent s'en saisir, qu'ils s'en saisissent de ce texte. C'est-à-dire que pour nous, ce texte, ça ne va pas être simplement un texte de CT pour cette direction. Pour cette direction de l'action sociale, hein. Ce sera un texte qui devra être le livre de chevet des travailleurs sociaux de la direction de l'action sociale. Et on va les inviter à le faire. Il reste néanmoins de nombreuses inquiétudes quand même, y compris dans cette direction. Comment cette organisation en silo, et alors c'est quand même bizarre, parce que la première organisation en silo des UTPAS, c'était Monsieur Donnet qui l'avait confié à Mme Tichou pour les vieux. On va jouer aux vieux, donc pour les vieux, rappelez-vous, en 92, une certaine Mme Tichou est arrivée de Paris. Elle a fait un organigramme en silo et on est resté traumatisé très longtemps en disant « Ah bah oui, mais c'est l'organigramme Tichou ». On espère qu'on ne dira pas « C'est l'organigramme US » dans quelques années en levant les yeux au ciel. Voilà. Donc comment cette transversalité indispensable à l'exercice des missions va être garantie? On reste dubitatif. Comment un secrétariat totalement sorti de l'action sociale va pouvoir continuer à jouer son rôle de pivot dans les maisons Nord Solidarité, excusez-moi, c'était le premier nom. Comment allez-vous garantir l'approche globale et généraliste, qui effectivement, ce sont des notions essentielles dont on a demandé l'introduction dans le texte, qui sont écrites? Comment vous allez pouvoir les garantir en confiant l'accueil inconditionnel du public au secrétariat? Ce sont des questions qui restent totalement ouvertes. Parce qu'on l'a dit depuis qu'on se rencontre autour de cette réorganisation, il ne suffit pas d'inscrire certaines garanties de mettre certains mots dans un texte. Il est nécessaire que l'organisation permette que cette transversalité existe et que cette approche globale et généraliste existe. Alors, une question pratico-pratique, on va dire, mais qui est essentielle. Pour cette direction, une question et une remarque. Donc, nous avions interpellé avant l'été sur le bazar qui était mis en place autour des assistants sociaux d'insertion et les travailleurs sociaux d'insertion, qui avaient particulièrement secoué nos collègues, hein, puisqu'on leur demandait de postuler en 3 jours sur un poste dont la fiche de poste était quand même largement modifiée. Eh bien, que deviennent ces assistants sociaux d'insertion ou travailleurs sociaux d'insertion à l'avenir, dont la fiche de poste est modifiée parce qu'on a signé uniquement des conventions avec des fonds européens. On demande à ce que ce projet de mise en place des travailleurs sociaux d'insertion, qui modifie quand même complètement leur fiche de poste, soit mis à l'ordre du jour d'un CT rapidement. Oui, rappelez, je l'ai dit tout à l'heure, mais rappelez quand même que ce qui est extrêmement compliqué dans le travail social, c'est d'être dépositaire d'éléments bruts sur le fonctionnement familial, par exemple, sur un fonctionnement familial, et de devoir l'évaluer, de devoir au sens devoir hein, du fonctionnaire et du travailleur social, de devoir l'évaluer. Ce qui est compliqué, c'est ça. Ça nie pas la complexité des suivis des familles et des suivis des gamins qui sont confiés. Il ne faut jamais perdre de vue que l'évaluation, elle détermine, la qualité de l'évaluation détermine tout le reste dans le champ de la protection sociale, de la protection de l'enfance, pardon. Bien sûr, nos collègues d'ECRIP maintenant sont complètement partie prenante de cette évaluation, et on pourrait en parler longtemps, hein, parce que est-ce qu'on est en capacité de faire une évaluation, même si ce sont des délais légaux sur 3 mois, ça a toujours été une question pour nous. Mais en tout cas, les professionnels de l'USSP interviennent largement dans cette phase de l'évaluation, et il était important de requalifier tout ça à ce niveau. Les amendements qui ont été pris en compte dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui correspond à ce qu'on attendait pour cette direction de l'action sociale. Concernant la direction enfance, famille, santé, 2 remarques et 2 questions. Donc, toujours outre l'organisation en silo qui est largement questionnante, hein, de manière globale, ce qui constitue un changement majeur pour ces travailleurs sociaux et cette direction, c'est la transformation du lien fonctionnel en lien hiérarchique entre les travailleurs sociaux ASE et le PEF. Et dans un contexte de pénurie, on craint que ça se transforme rapidement en obligation de résultat, et que, par exemple, comme il a été dit sur Valenciennes la semaine dernière par la responsable de PEF, pas de moyens, pas de signalement au parquet ou au juge des enfants pour signaler une situation en détresse. Ça pourrait faire partie des objectifs à atteindre pour les travailleurs sociaux de l'ASE. Et c'est une question. Une autre question pratico-pratique, alors, ce sont les postes de JE. Pareil, courant de l'été, on vous a interpellé sur ces postes de JE et on avait demandé la mise à l'ordre du jour du CT. On veut une réponse aussi par rapport à ça. Si on fait un peu d'histoire, la création des postes d'éducateurs de jeunes enfants s'est posée après le droit de retrait total de l'équipe ASE d'Anzin de 5 semaines, qui demandait la création d'un poste de JE pour prendre en charge les visites médiatisées qui embolisaient complètement leur activité. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais on était au-delà de la centaine par mois. Voilà, un poste de JE a été créé dans cette équipe, par exemple, et dans d'autres équipes. Actuellement, les postes de JE, et je pense en particulier, mais Anzin nous en a fait part aussi, au poste de JE de l'UT d'Avesnes-les-Aubert. Donc c'est une JE qui travaille depuis 1 an, qui fait un travail considérable en lien avec les travailleurs sociaux enfance, et qui permet de faire un réel travail de médiatisation, parce qu'il ne faut pas se leurrer, actuellement on ne fait pas un travail de médiatisation dans les visites, on fait un travail de surveillance, on fait des visites surveillées, on ne fait pas des visites médiatisées. Donc qui fait un travail dans cette UT au préalable à la visite, un travail avant la visite, un travail pendant la visite et un travail après la visite, qui fait qu'on est vraiment sur une qualification au sens qualitatif On qualifie la visite médiatisée, cette personne qui a pourtant obtenu le concours de JE territorial, vient de se voir proposer, puisqu'on lui a dit que son contrat ne pourrait être renouvelé que si elle devient référent ASE. Et bien sûr, elle va s'en aller parce que c'est pas ça qu'elle souhaite. Donc, on a découvert, nous, à travers ces différents exemples, que ces postes de JE étaient visiblement attribués dans le cadre d'une expérimentation. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire un bilan de cette expérimentation avant toute transformation de poste, de ces postes-là en référent ASE. Et d'autant que dans d'autres équipes, on affecte des UGE pour prendre en charge les visites médiatisées. Donc là aussi, autour de tout ça, il y a un grand bazar qu'on voudrait clarifier. Et puisqu'il s'agit d'une expérimentation, encore une fois, on souhaiterait que ça fasse l'objet d'un passage en CT pour faire le point, puisque visiblement, l'expérimentation de l'embauche de JE autour des visites médiatisées a été particulièrement positive. L'enfance, famille, santé, on nous parle on l'avait abordé avec Monsieur Huss, la création d'un poste de conseiller stratégique auprès de la DGA, donc auprès de Madame De Vraise. La réponse qui nous a été faite, pour nous, correspondait plus à un poste d'adjoint. Donc on aimerait savoir un petit peu c'est quoi ce poste de conseiller stratégique, qu'est-ce qui va apporter en termes de stratégie, puisque M. Huss nous avait essentiellement motivé la création de ce poste autour des engagements nationaux de Mme De Vraise et donc la nécessité de la remplacer durant ses absences. Donc ce qui relèverait plus d'un rôle d'adjoint. Concernant la DGA autonomie, donc ça, c'est la DGA qui nous paraît la plus... poser le moins problème de fond et qui nous paraît la plus logique, dont l'évolution était sans doute nécessaire compte tenu de l'évolution des populations et en particulier du vieillissement des personnes handicapées. Donc il était nécessaire de rapprocher les deux politiques, c'est une évidence. Pour cette direction, nous avons obtenu des garanties sur pas de suppression de poste, pas de mobilité contrainte, l'organisation des visites à domicile territorialisées pour garantir l'autonomie des évaluateurs. Donc on dira qu'à ce stade... Ça nous paraît satisfaisant. Par contre, toujours en séance plénière lundi, Christian Poiré a annoncé la réinternalisation du débord de la plateforme MDA. Donc, en ce qui nous concerne, on demande également à ce que ce soit mis à l'ordre du jour d'un comité technique et d'un CHSCT, parce que, a priori, sur le principe, c'est une bonne chose que ce soit réinternalisé, mais ça pose des questions d'organisation de travail et de conditions de travail, bien sûr, en particulier autour des moyens qui seront alloués à cette plateforme téléphonique. Il est fait également mention dans cette DGA autonomie de l'évolution prochaine des process d'évaluation, ce qui nous inquiète un peu beaucoup, en particulier par rapport à l'histoire de la MDPH, puisque il a été question, alors vous semblez y revenir maintenant, mais il a été question quand même dans un temps d'habilité, il y avait une politique d'habilitation, c'est-à-dire de donner des autorisations à des agents qui n'avaient pas forcément les compétences pour intervenir dans l'évaluation, par exemple médicale ou sociale, d'habiliter du personnel administratif pour contribuer à l'évaluation. Médicale ou sociale, tout en tenant compte du fait que des agents ont participé du coup à ces évaluations et ont, de leur point de vue, ça va vous faire plaisir, monté en compétences. Donc il s'agit pas non plus pour eux de les recantonner dans des missions uniquement de clic. Cliquer pour enregistrer un dossier, par exemple. Donc, vous le savez, on situe, et on l'a dit tout à l'heure, la notion d'évaluation au cœur de tout ce qui doit concerner le soin et l'aide apportée aux nordistes. L'évaluation à la MDPH est également essentielle, et il n'est pas question que ces process viennent déqualifier toute l'évaluation qui est amenée pour apporter la réponse la plus juste à une population en difficulté sur le plan du handicap ou de la perte d'autonomie dans le cadre du vieillissement. Et les collègues de la MDPH, dans cette organisation, continuent à s'interroger sur sur que vont devenir les personnes qui assurent l'accueil actuellement à la MDPH de Villeneuve-d'Ascq, par exemple. L'enjeu majeur autour de cette direction de l'autonomie, c'est aussi pour nous la généralisation et l'organisation des relais autonomie. Alors on s'était engagé à faire des propositions très concrètes, on n'a pas eu le temps de le faire. De notre point de vue, il n'est pas trop tard puisqu'on démarre maintenant, mais on a des propositions à vous faire très concrètement sur la manière dont doivent fonctionner et avec quelle attribution de moyens doivent se concevoir les relais autonomie qui sont effectivement essentiels auprès des populations. Concernant la relation, la DGA, la direction de relations nordistes, alors c'est les questions qu'on a déjà posées tout à l'heure. Le secrétariat des maisons Nord Solidarité est totalement détaché de l'action sociale. On a appris dernièrement que les agents d'accueil des musées relèveraient de cette direction. Comment non ? Si. On a appris ça. Dans les services, c'est ce qui se dit. C'est qui dit ça ? C'est qui ? C'est des chefs de service, entre autres. Donc, si c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais en tout cas, ça posait la question du coup de la polyvalence. Et qui est agent d'accueil ? Est-ce qu'un agent d'accueil de musée devient un agent d'accueil de service social, avec toutes les questions que ça pouvait poser ?